Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 22 août 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran pourra-t-il peser sur le marché de gaz européen? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le Parlement iranien continue d'examiner le cabinet proposé par le président Ibrahim Raïsi. Pas de conseiller militaire iranien au Yémen, insiste Téhéran. Et puis cet Afghan mort dans le chaos près de l'aéroport de Kaboul. Selon le ministère britannique de la Défense, les talibans accusent les États-Unis d'être responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Parlement iranien continue d'examiner le cabinet proposé par le président Raïsi, je vous le disais en titre. Le Parlement iranien examinait dimanche, pour la deuxième journée consécutive, la composition du cabinet du président Ibrahim Raïsi. Les législateurs examinent les qualifications des choix de M. Raïsi pour les postes ministériels. Les partisans et les adversaires des ministres proposés ont la possibilité de parler pour ou contre eux. Ceci avant un vote de confiance qui devrait avoir lieu mercredi. Le président iranien aura jusqu'à 3 mois pour nommer un remplaçant au cas où l'un des ministres proposés ne remporterait pas le vote. Ibrahim Raïsi a défendu ses choix samedi devant le Parlement dans son discours à la tribune de l'Assemblée islamique. Il a déclaré que son programme est destiné à apporter justice et progrès. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, réagissant aux allégations selon lesquelles un ressortissant iranien aurait été tué dans les bombardements au Yémen, a déclaré « Il n'y a aucun conseiller militaire iranien au Yémen » et aucun prétendu ressortissant dans notre pays n'était là pour être tué dans les bombardements des agresseurs au Yémen. Saïd Khatibzadeh a qualifié de fausses les déclarations d'un membre de l'ancien gouvernement fantoche démissionnaire de Mansour Hadi au Yémen, soutenu par Riyad, selon lesquelles un ressortissant iranien avait été tué au Yémen. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté « De telles allégations sans fondement ne changent pas la réalité du Yémen, pays victime de lâche-attaque de la coalition d'agression menée par Riyad. » Pour le diplomate iranien, la réalité du Yémen dont l'ignorent les agresseurs, c'est que le peuple opprimé du Yémen s'est resté déterminé et résistant face à l'agression. Déplorant les agissements des mercenaires yéménites à la solde des agresseurs, le porte-parole de la diplomatie iranienne a conclu « Nous regrettons de voir des personnes qui se considèrent yéménites accompagner les agresseurs dans les oppressions provoquées par un blocus total et la guerre contre le peuple de leur pays. l'Arabie saoudite a lancé une guerre dévastatrice contre son voisin du sud, le Yémen, en mars 2015. Des dizaines de milliers de yéménites, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués dans l'agression. Selon le vice-ministre iranien de la Défense, le décryptage des réseaux a empêché l'auscultation des communications par l'ennemi. Le PDG de l'Organisation des industries électroniques affiliées du ministère iranien de la Défense a qualifié les réseaux de communication de facteurs de force dans les nouvelles guerres et a déclaré « Nous avons localisé les réseaux de communication du pays et avons pu créer une communication sécurisée en cryptant les communications ». Le général de brigade, Shohrokh Shahram, responsable des relations publiques du ministère de la Défense, a déclaré dans une interview à l'occasion du 22 août, jour de commémoration de l'industrie de la Défense, évoquant les mesures prises dans le domaine de l'électronique, je cite, « Après la victoire de la révolution islamique en 1979 et la Sainte Défense, la guerre de 1980-1988, nous avons pu non seulement arrêter les menaces dans la Sainte Défense aux frontières, mais aussi de transformer ces menaces en une opportunité de prospérité et d'autosuffisance. » Soulignant l'importance de l'autosuffisance dans la production de composants électroniques et d'équipements radars et de communication, le responsable iranien a déclaré « L'expérience de la Sainte Défense, la guerre imposée irakienne sous Saddam, nous a montré que nous devons être autosuffisants dans le domaine du combat et des équipements militaires, car aucun pays n'en nous fournit avec cet équipement. » L'Iran et le Japon signent un accord de coopération dans les affaires douanières. L'ambassade du Japon à Téhéran a annoncé qu'un accord d'assistance administrative mutuelle et de coopération dans les affaires douanières avait été signé entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de la République islamique d'Iran. L'ambassade du Japon à Téhéran a écrit sur son compte Twitter « Le 22 août, l'accord entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'assistance administrative mutuelle et la coopération dans les douanes a été signé par Ikawa Kazutoshi, ambassadeur du Japon en Iran, et Mahdi Mirashrafi, vice-ministre iranien des Affaires économiques et des Finances et directeur général des douanes de la République islamique d'Iran. » L'ambassade du Japon à Téhéran a ajouté dans le tweet « Le but de cet accord est le soutien administratif et la coopération mutuelle dans les affaires douanières. » Aujourd'hui à Téhéran, le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Tushimitsu, a rencontré le président Ayatollah Raisi, l'amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. Sept Afghans sont morts dans le chaos près de l'aéroport de Kaboul, où des milliers de familles se massent pour tenter d'évacuer le pays, a annoncé dimanche le ministère britannique de la Défense. Les conditions sur le terrain restent extrêmement difficiles, mais nous faisons tout notre possible pour gérer la situation de la manière la plus sûre et la plus sécurisée possible, a-t-il ajouté. Alors que la situation empire près de l'aéroport de Kaboul, le gouvernement britannique a plaidé pour repousser l'échéance fixée au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. L'ancien premier ministre Tony Blair, qui a engagé la Grande-Bretagne dans la guerre en Afghanistan en 2001 aux côtés des États-Unis, a critiqué samedi l'abandon du pays par les Occidentaux qu'il a jugé tragique, dangereux et inutile. Pendant ce temps, un haut responsable taliban a déclaré que les États-Unis étaient responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul. Le responsable a noté que les États-Unis n'avaient pas réussi à rétablir l'ordre à l'aéroport. L'Amérique, avec toute sa puissance et ses équipements, a échoué à ramener l'ordre à l'aéroport. Il y a la paix et le calme dans tout le pays, mais il n'y a que le chaos à l'aéroport de Kaboul. Cela doit cesser le plus tôt possible, a déclaré ce responsable, Amir Khan Motari. Des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, ont envahi les portes d'entrée de l'aéroport de Kaboul pour trouver une chance de quitter le pays. Plusieurs sont morts à cause de la chaleur et de la bousculade au cours des derniers jours. Sachez également que les États-Unis ont exhorté leurs ressortissants à éviter de se rendre à l'aéroport de Kaboul en raison de ce qu'ils ont qualifié de menace potentielle pour la sécurité à proximité de leurs portes. L'ambassade des États-Unis a émis l'avertissement sans donner de détails, mais un responsable de la Maison-Blanche a déclaré qu'ils avaient discuté des opérations antiterroristes en Afghanistan, y compris contre le terroriste de Daesh. Les États-Unis et leurs alliés tentent toujours d'évacuer des milliers de leurs ressortissants ainsi que des Afghans qui travaillaient auparavant pour eux, 6 jours après la prise de contrôle du pays par les talibans. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les pays faisaient une course contre l'OTAN et l'espace pour évacuer les gens. Il a dit ne pas disposer précisément du nombre d'Américains toujours présents à Kaboul et plus largement en Afghanistan. Un haut représentant du département américain de la défense a indiqué que 2500 Américains ont été évacués de Kaboul au cours de la semaine écoulée. Les États-Unis cherchent à évacuer 15 000 Américains et jusqu'à 60 000 Afghans. Washington s'est fixé comme date limite le 31 août pour terminer le processus. Enfin, le mouvement de la résistance palestinienne Hamas a réagi aux dernières frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza assiégée, affirmant que Tel Aviv commet des erreurs de calcul. Le mouvement a déclaré qu'Israël avait clairement ignoré le message des Palestiniens et des groupes de résistance en pilonnant Gaza quelques heures après avoir blessé des dizaines de manifestants. En attaquant Gaza, a ajouté le Hamas, le régime israélien cherche à réduire l'intensité de son désespoir et de son échec face au front de résistance. Le Hamas a souligné que les Palestiniens et les groupes de résistance contreraient l'ennemi avec détermination. L'aviation israélienne a pilonné au moins 3 cibles dans la bande assiégée. Tel Aviv a prétendu que les frappes aériennes étaient en réponse à une manifestation marquant le 52e anniversaire de l'incendie de la mosquée d'Al-Aqsa. L'Iran pourra-t-il peser sur le marché de gaz européen ? L'Iran a révélé la semaine dernière la découverte d'un énorme nouveau gisement de gaz situé dans le sud de la mer Caspienne. Le champ gazier de Chalous a une capacité de production estimée à 11 phases de Sudpars, plus grand champ gazier du monde que l'Iran partage avec le Qatar. Si les estimations sont exactes et que l'opération d'exploration du Chalous s'avère réussie, le volume de gaz récupérable de cette seule structure serait 1,5 fois le gaz récupérable total en Azerbaïdjan et l'équivalent de 30% du gaz récupérable total en mer Caspienne. Cette structure peut également avoir d'importantes réserves de pétrole. Aussi, Chalous peut être comparé au gisement géant de pétrole et de gaz du sud de l'Iran en termes de gisement d'hydrocarbures en place et récupérable. C'est d'autant plus important que l'Iran est propriétaire de technologies en eau profonde et partant dépositaire d'un accès facile à la haute mer, puisque situé sur la principale route de transit de la région. En effet, 675 km des côtes de la mer Caspienne se trouvent en territoire iranien, mer qui est une zone énergétique clé après le Moyen-Orient et la Sibérie. En plus des caractéristiques uniques de l'Iran pour livrer l'énergie des voisins au reste du monde, Chalous est apte à fournir 20% des besoins énergétiques de l'Europe, ce qui signifie attirer d'importants investissements étrangers. Et ce, d'autant plus que l'Iran a la route la plus sûre pour les exportations de pétrole et de gaz avec des installations telles que des installations pétrolières et gazières, des installations portuaires, des raffineries et des réseaux de pipelines de pétrole et de gaz est l'option la plus appropriée pour les exportations de gaz vers l'Est et l'Ouest. Il convient de mentionner aussi que la mer Caspienne est actuellement l'une des sources les plus importantes de pétrole brut et de gaz naturel au monde, avec 3 à 4% des réserves prouvées de pétrole brut et environ 6 à 7% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, à quoi s'ajoute la proximité du principal marché de consommation. On estime également qu'en raison de la situation géographique privilégiée de cette mer, certains pays européens d'Asie de l'Est et même les États-Unis couvriront jusqu'à 80% de leurs besoins en pétrole et en gaz à partir des ressources de la mer Caspienne. Or, la situation géographique de l'Iran permet au pays de recevoir plus de ressources énergétiques des États riverains de la mer Caspienne et de les livrer aux clients du Golfe Persique. En effet, aucun des pays riverains de la mer Caspienne n'a la position géographique privilégiée de l'Iran dans le transit du pétrole et du gaz de la Caspienne. Nord Stream 2 iranien est-il sur le point de naître ? Très probable. Et dire que le pacte stratégique Iran-Russie pourrait aussi inclure cette superbe clause de complémentarité énergétique iran-russe, pour le grand malheur des États-Unis, qui verront le problème Nord Stream 2 prendre une dimension iranienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans une précédente émission, le débat, nous avons abordé cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Et dans le cadre de cette émission, nos des invités, nos des spécialistes ont souligné que voilà cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères s'inscrivent dans le cadre d'un plan bien calculé, concocté par l'OTAN, par les États-Unis, avec pour objectif de permettre aux États-Unis, à l'OTAN et au régime israélien d'avoir une présence active en Afrique, partout en Afrique. Et aujourd'hui, on va en fait aborder cette question tout en sachant que le ministre israélien des Affaires étrangères, lors de sa visite à Rabat, a dit qu'il avait évoqué avec son homologue marocain les inquiétudes israéliennes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région. Là, je cite le ministre israélien des Affaires étrangères, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. L'Algérie est visée, mais l'Algérie pour en fait pouvoir de défendre, pour pouvoir en fait faire face à ces agissements, surtout du côté israélien, qui vise désormais publiquement, ouvertement, Alger. L'Algérie peut compter en fait sur quel pays, quel facteur, quels éléments. On sait qu'en fait, l'Algérie a des liens très, très étroits, même sur le plan militaire avec la Russie. Mais l'Algérie peut-elle compter uniquement sur la Russie, qui entretient quand même des relations avec le régime israélien pour se défendre, ou bien l'Algérie doit se tourner également vers d'autres alliances, d'autres facteurs, l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie et l'Irak, pour en fait renforcer son poids sur le continent africain pour faire face, si vous voulez, à ces tentatives israéliennes. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et bonjour à mon collègue, le professeur Dortiguier. J'ai aussi très grand plaisir de débattre avec lui comme d'habitude.
Vous l'avez dit, Luc Michel, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est le professeur Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Monsieur Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher monsieur Neurostine, bonjour à tous vos auditeurs et à notre ami monsieur Luc Michel.
Monsieur Dortillier, je viens de lancer le sujet.
Oui.
Le ministre israélien des Affaires étrangères parle désormais ouvertement des inquiétudes de Tel Aviv au sujet du rôle joué par l'Algérie sur le continent africain. Monsieur Dortillier, jusqu'à présent, en fait, le régime israélien observait le mutisme quant aux prises de position, si vous voulez, de l'Algérie très particulièrement au sujet de la question palestinienne, mais désormais, en fait, le régime israélien vise ouvertement l'Algérie à Rabat. Il parle, en fait, de ses négociations, il fait état de ses négociations avec son homologue marocain au sujet des inquiétudes israéliennes au sujet de l'Algérie, M. Dortillier.
Oui, en effet. Il faut d'abord, pour bien apprécier, comprendre la situation, savoir que depuis très longtemps, dès l'époque du gouvernement de M. Ben Gurion, c'est-à-dire tout à fait au début donc, de la formation de l'État sioniste, l'Afrique en général a été visée par les Israéliens. Il y a une très grande influence exercée même sur des hommes qui ont eu une importance en Afrique. Je dirais même, je ne peux pas citer trop de noms, mais même M. Lumumba ou d'autres, par exemple, avaient été contactés à l'époque par les émissaires israéliens, et ceux-ci, jusqu'à l'Afrique du Sud, voyez-vous, ont essayé et parfois ont même posé des jalons. Donc, ce que craint Israël, c'est de perdre ou de voir contrebalancer une influence qu'il a, plus ou moins forte, mais quand même constante, je dirais, en Algérie, en Afrique. Et les déstabilisations internes de l'Algérie n'ont pas, à notre avis, disons, porté certainement les fruits. Parce qu'en Algérie, il y a eu, disons, des troubles, peut-on dire, politiques, oui, plutôt tout à fait normaux dans une nation. Mais là, on sentait qu'il y avait peut-être aussi des agitations, peut-être des manipulations. Et il semble que l'Algérie ait conservé, pu conserver, disons, une certaine distance entre des partis politiques, entre des, disons, se maintiennent, disons, dans son, sur son cap, disons, de politique indépendante. Là, l'affrontement avec le Maroc est prévisible. Déjà, vous voyez, le soutien apporté par M. Trump, par exemple, au Maroc, dans sa polémique, dans sa guerre avec l'Algérie, dans sa guerre, disons, dans son affrontement permanent au sujet, vous savez, du Polisario et d'autres, sur lequel on peut parler beaucoup, mais enfin, disons que il semble que l'OTAN, il semble en tout cas chez nous, en France, nous le voyons très bien, que le Maroc fait corps aujourd'hui avec ce qu'on peut dire l'Europe, c'est-à-dire l'Europe au sens militaire, disons du terme, dans le sens otanesque, vous voyez. Et j'ai beaucoup d'exemples, je peux même priver, que je connais, de Marocains et de Marocains qui travaillent dans des différents services, et il semble que je parle de Marocains, par exemple, ici de l'immigration, mais qui sont, il faut le savoir, toujours susceptibles d'avoir le passeport marocain. C'est une décision de Hassan II qui justement montre l'intégration profonde du Maroc avec le système, on peut dire, au sens politique et militaire, je dis bien, pas au sens, disons, culturel ou non, économique, mais au sens politique. Avec cette fraction d'Europe, on peut dire même sans exagération que le Maroc fait partie de l'Europe aujourd'hui dans le sens de l'OTAN. Et donc il y a un affrontement qui est cherché avec l'Algérie, mais cet affrontement est justement une sorte de pression israélienne qui dispose d'énormément de complicité à l'intérieur du Maroc. Chacun le sait, tout le monde connaît l'influence de M. Azoulay, par exemple, et d'autres, bien sûr. Il y a eu des adversaires, bien sûr, dans la communauté israélite, à Israël aussi, il faut le dire, pour être juste, au Maroc en particulier. Chacun connaît l'histoire de M. Vanunu, Mordecai Vanunu, qui a dénoncé l'armement israélien, l'armement atomique israélien. Mais pour revenir à la situation actuelle, il est certain que les Israéliens veulent engager, disons, une sorte de conflit, d'aider à une sorte de conflit pour pouvoir, entre l'Algérie et le Maroc, pour pouvoir justement, disons, diminuer l'importance politique de l'Algérie et agir comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais en l'intérieur de l'Afrique, mais avec les mains plus libres. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'à travers l'Algérie, à travers la coopération avec la Chine, qu'à l'Algérie, à travers également aussi la présence de la flotte russe, par exemple, qui pourrait trouver justement dans les mers libres de Méditerranée, comme ça, un appui en Algérie. Tout ceci fait peur, bien sûr, ou fait peur. Disons, ne plaît pas aux Israéliens, et ce qui est très important, c'est de voir que la présence du ministre actuel des Affaires étrangères israélien succède à des visites militaires récentes, et ces visites militaires récentes sont finalement, non pas un rappel à l'ordre du Maroc, mais une mobilisation du Maroc, à notre avis, qui est préparée, vous voyez, pour pouvoir justement servir de point de fixation à une sorte de lutte avec l'Algérie et donc, disons, intimider l'Algérie elle-même dans ce qu'elle peut avoir comme initiative diplomatique africaine. L'Algérie est un pays africain qui a une influence importante. Vous savez, après avoir démoli la Libye, eh bien, on veut démolir maintenant l'Algérie, merci, qui représente, bien sûr, pour beaucoup de pays africains, alors, disons aussi, une sorte de pôle d'espérance, voyez-vous, un exemple, disons, d'indépendance et de développement aussi. Voyez-vous, tout ceci fait partie d'un jeu, évidemment, qui est extrêmement, dangereux pour la paix mondiale, peut-on dire. Et je dois dire que l'Algérie, évidemment, l'Algérie et le Maroc sont appelés, bien sûr, malheureusement à s'affronter. En tout cas, on s'y prépare activement. C'est ce que démontre, justement, la présence du ministre des Affaires étrangères israélien au Maroc.
Merci. Monsieur Luc Michel, votre analyse, s'il vous plaît.
La question historique de l'opposition entre le Maroc et l'Algérie, elle n'explique pas tout, pas plus que la question du Sahara occidental. En fait, elle s'inscrit dans le choc entre les deux blocs, le bloc américano-occidental qui est structuré sur un acte et le bloc de l'Est, c'est une position entre bloc militaire et de plus en plus idéologique. Il y a une véritable entre les deux blocs au travers de l'opposition. Il a été désigné auquel il y a plusieurs années, c'est la porte d'entrée des Américains et de l'OTAN, non plus seulement en Afrique du Nord, comme je suis en 2020, bon, je me dis, vous savez que les États-Unis et l'OTAN sont en train de se redéployer, ils ont étendu leur zone d'influence qui va maintenant du Maroc au Mozambique, et le Maroc est essentiel à ce redéploiement. Face à lui, il y a l'Algérie. L'Algérie, elle est impliquée à trois niveaux dans ce choc des blocs. Tout d'abord, il y a la position de l'Algérie. L'Algérie a une position appelée dans le combat anti-impérialiste depuis l'indépendance algérienne. Et depuis la destruction de la Jamaïque il y a 10 ans, l'Algérie est la principale opposition aux Américains et aux sionistes en Afrique. Il faut savoir que l'Algérie, à 3 reprises, a été victime de campagne de répression. C'était la victime du soi-disant printemps arabe, on l'ignore souvent, dès décembre 2010, en 2013, après la destruction de la Jamaïque, et enfin le soi-disant Irak qui est algérien depuis 2 ans. Deuxième dossier, c'est l'alliance avec la Russie. Il y a actuellement une guerre pour le contrôle des voies maritimes. Et cette guerre se déploie notamment entre la flotte russe et les flottes des États-Unis, la 6e flotte et les flottes de l'OTAN, en Méditerranée occidentale. Le principal allié de la Russie, c'est précisément l'Algérie, qui a une armée puissante qui est équipée de matériel russe. Mais le troisième dossier, c'est l'arrivée de l'Iran en Afrique. L'Iran est en train d'arriver en Afrique en aide des Russes depuis maintenant 1 an et demi. Elle est introduite dans ce dossier pour le contrôle des océans. La flotte iranienne
dans l'entrée de l'océan Atlantique et dans l'océan. Mais surtout, il y a le volet économique de l'arrivée de l'Iran. L'Iran est un des États centraux de ce qu'on appelle l'Association des États producteurs de gaz, avec la Russie et Gazprom, avec le Venezuela. Actuellement, le partenaire de cette alliance, c'est la Guinée équatoriale et le Sénégal. Mais il y a un grand pays producteur de gaz, c'est l'Algérie, qui était déjà présent comme observateur lors du sommet des États producteurs à Malabo, l'équatorial, en juillet 2019. Et dans ce schéma, l'Algérie est un allié indispensable des Russes et des Iraniens pour réaliser ce projet. Dès lors, le Maroc est utilisé par les Américains, les Français et les sionistes, évidemment, pour s'opposer à l'Algérie et essayer de réduire ce rôle international de l'Algérie comme allié principal du bloc de l'Est. L'inquiétude des Israéliens eux-mêmes et des Américains étant cette arrivée des Iraniens, puisque vous savez que l'Iran est en train de prendre petit à petit la place de ce qui était autrefois le grand diable russe, jusqu'il y a encore un an ou deux. Maintenant, il y a littéralement une propagande irano-fauve dans toute l'Afrique et en Europe. Il y a des dispositions, il y a des opérations secrètes. Et bien entendu, les partisans du bloc de l'Est comme moi, nous tentons de créer un lobby pro-iranien, que moi j'appelle l'iranosphère, comme nous l'avons fait depuis une quinzaine d'années pour la russosphère en Europe et en Afrique.
Monsieur Dortiguier, en fait, Luc Michel vient de le dire, l'Algérie a été toujours une véritable opposition, un obstacle au projet américain et israélien en Afrique. Et l'Algérie est visée désormais, on vient de le dire en fait tout à l'heure au début de notre émission, visée en fait ouvertement et publiquement par le régime israélien qui considère l'Algérie comme, si vous voulez, un obstacle à ces projets. L'Algérie en fait est considérée à la fois par le Maroc et le régime israélien toujours comme un obstacle à la réalisation de leurs projets en Afrique. Et Luc Michel vient en fait de faire allusion à ces liens militaires entre l'Algérie et la Russie, mais on sait quand même que la Russie entretient des relations avec le régime israélien également. Monsieur Dortiguier, le Premier ministre algérien a participé tout récemment à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. L'Algérie peut-elle compter, d'après vous, sur d'autres facteurs, très particulièrement l'Iran et l'axe de la résistance, la Syrie, l'Irak et le Liban, pour faire face au régime israélien et à ses alliés en Afrique?
À long terme, oui, disons maintenant, mais surtout l'Algérie voit cela à long terme. Car, comme vous l'avez bien expliqué, je me permets de le dire, M. Narostin, il y a bien sûr des limites du soutien de la Russie, car la Russie obtient évidemment assez bien avec le régime sioniste. C'est exact, il faut le dire. On ne le dit pas suffisamment, puisque même, enfin, chacun sait que c'est la Russie quand même, sous Staline, bien sûr, qui a demandé la formation de cet État, par l'intermédiaire de M. Gromyko. Mais je crois que l'Algérie, pour voir ça de deux points de vue, l'Algérie, après les troubles qui l'ont agité, a compris que l'on voulait profiter de certaines difficultés internes qui sont tout à fait normales, qu'est le développement de l'Algérie. On a voulu, disons, profiter de cela pour pouvoir diminuer et neutraliser son rôle. Son rôle, disons, sur le plan, pas politique, mais sur le plan économique. Et donc, il y a eu un ressaisissement, à mon avis, de toutes ces forces en Algérie pour pouvoir justement séparer ce qui était véritablement des conflits sains à résoudre et aussi des tentatives de subversion. Tentatives, disons, qui sont venues de partout, d'Europe, de France, malheureusement, puisque nous n'avons jamais été finalement en paix avec l'Algérie. Nous avons toujours considéré, je dis nous, c'est-à-dire de nombreuses couches politiques françaises ont considéré l'Algérie comme une sorte de d'adversaire. Voyez-vous, le terme de coopération n'a vraiment été que souvent qu'un mot vide. Non pas sans réalité, mais sans avoir, disons, l'ampleur qu'il aurait dû avoir. Cette chose étant dite, que l'Algérie voit, par exemple, un allié, un allié économique, un allié à plusieurs points de vue, culturel aussi, avec l'Iran, je le crois. Je crois que l'Algérie voit les choses maintenant à long terme, et justement, elle pèse les menaces dirigées contre elle à long terme. Elle les pèse, justement, à cause de la politique d'hostilité du Maroc, c'est-à-dire à cause du soutien, plutôt, pour être plus exact et plus juste, du soutien de force, disons, de force hostile au monde arabe en général, soutien apporté au Maroc, apporté, je ne veux pas mettre en cause la dynastie marocaine et autres, mais disons que la société marocaine est beaucoup plus, paralysée par des forces, négatives que l'Algérie. L'Algérie a quand même, de par sa lutte pour l'indépendance, qui a été bien plus forte que celle du Maroc, j'ai suivi des choses autrefois, aussi tout jeune, je les ai bien suivies, je dois dire qu'elle représente quand même, il y a une conscience politique que l'on ne trouve pas dans les autres pays, surtout au Maroc. On le trouve en Tunisie, mais on ne le trouve pas, à mon avis, au Maroc. Et l'influence israélienne aussi est très puissante à l'intérieur du Maroc. Elle a toujours été, et c'est maintenant nous sommes à l'heure de vérité, si je puis dire. Avec la chute de la Libye également, l'Algérie se sent aussi investie quand même d'un rôle. Elle sent qu'elle est menacée d'abord, puisque le rôle que jouait la Libye à l'intérieur des projets d'émancipation africains, enfin, disons, comme sur le plan monétaire en particulier, eh bien, l'Algérie peut le reprendre sur le plan, disons, de l'indépendance énergétique et autres. Et il y a certainement beaucoup de... ce que a très bien dit monsieur Luc Michel, et j'attire l'attention sur... Je n'ai pas du tout personnel, ce que je dis, c'est personnel, bien sûr, amical, mais c'est aussi l'expérience que j'ai de la Belgique depuis de nombreuses années. Je reconnais que beaucoup de Belges sont très, très au courant, beaucoup plus que les Français, évidemment, du monde international et du monde africain en particulier.
Merci beaucoup.
Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Michel, mais je dois dire que cette lutte dont l'Algérie a conscience sur le territoire africain, dont cette recherche d'alliance avec l'Iran, je dirais, civilisationnel et énergétique, tout ceci, bien sûr, est le signe et le présage, disons, de conflits, de batailles très dures. Et je dois dire que c'est la raison pour laquelle, justement, on peut dire le lièvre s'est levé du bois. C'est-à-dire que l'entité sioniste s'est manifestée telle qu'elle, voyez-vous, parce que quand même arrivé avec comme un ambassadeur, etc.
Merci beaucoup.
Je crois, l'autre jour, une mission militaire à l'uniforme. Tout ceci, quand même, frappe le monde arabe et le monde musulman.
Merci.
Et je dois dire que si Israël a fait ce pas, c'est que, justement, pour lui, la situation est très sérieuse. Et donc, il faut, disons que de part et d'autre, il y a une attention portée à ce que fait l'Algérie, à ce que fait l'Afrique en général.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur d'Ortiguet. Luc Michel, nous avons 2 minutes, en fait, devant nous. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et l'Algérie est menacée, selon monsieur d'Ortiguet. L'Algérie est-elle entrée, d'après vous, dans une confrontation avec le régime israélien pour défendre ses intérêts au niveau africain?
C'est une guerre par procuration. Mais il y a un quatrième dossier, c'est le dossier du panafricanisme. Actuellement, il y a une nouvelle génération qui est émergée, qu'on appelle le néo-panafricanisme, qui est alliée à la Russie, justement, en Afrique. Il y a actuellement un rapport du Pentagone, une campagne de diffamation. Je suis au cœur de celle-ci, comme ça je peux vous en parler. Je suis désigné comme le principal lobbyiste de la Russie en Afrique. Et le but de tout cela, il est très simple, que le néo-panafricanisme est très hostile à la subsistance de la France-Afrique. Et le Maroc est le principal allié de Macron et de la nouvelle France-Afrique pour tenter de bâtir une France-Afrique 2.0. Il est donc essentiel l'alliance des néo-panafricanistes avec la Russie et avec l'Iran, qui est dénoncé par les Américains d'ailleurs,
et par les Français ouvertement. Même Macron l'a cité il y a quelques semaines. Et donc, il faut comprendre qu'au milieu de tout cela, évidemment, une Afrique puissante ou une Algérie puissante existe et s'oppose au Maroc est intolérable à Paris lui-même. Voilà donc le quatrième élément de ce dossier. Ces quatre éléments, l'alliance russe, l'alliance iranienne, l'opposition au Maroc et le panafricanisme, fait que l'Algérie est devenue la cible de ce bloc américano-sioniste. Et évidemment, parallèlement à cela, qu'elle reçoit,
merci beaucoup,
qu'elle reçoit un soutien important.
Merci beaucoup Luc Michel d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Pierre Dortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Algérie envisage de revoir ses relations avec le Maroc. La présidence algérienne a annoncé sa décision de revoir ses relations avec Rabat, accusé par Alger de commettre des actes hostiles incessants et d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays. L'Algérie a décidé de revoir ses relations avec le Maroc et qu'elle accuse d'être impliquée dans les incendies meurtriers. L'annonce a été faite dans un communiqué de la présidence algérienne a publié mercredi 18 août à l'issue d'une réunion extraordinaire du Haut Conseil de sécurité algérien présidé par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, stipule le communiqué sans autre précision. La présidence algérienne a imputé les incendies destructeurs qui ont frappé le pays ce mois-ci à deux groupes qu'elle a récemment désignés comme des organisations terroristes, ajoutant que l'un d'entre eux était soutenu par le Maroc et Israël. Alger a rapporté que la police avait procédé à 22 arrestations depuis le déclenchement des feux de forêt, mais que la responsabilité de ces incendies trouvait son origine dans deux groupes. Ces deux groupes ont été désignés comme des organisations terroristes. Dans un communiqué, la présidence algérienne a déclaré que le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie était soutenu et aidé par des puissances étrangères, en particulier le Maroc et Israël. L'Afrique doit rejeter les tentatives de politisation de la recherche des origines du coronavirus, selon un journal zimbabwéen. L'Afrique, qui est actuellement en prise avec un faible taux de vaccination contre la COVID-19, doit se tourner vers la Chine pour trouver une solution efficace à cette pandémie dévastatrice, selon un article d'opinion publié mercredi par le journal zimbabwéen Herald. L'article a exhorté l'Afrique à rejeter les tentatives de politisation de la recherche des origines du virus, soulignant que si ces tentatives mal orientées se poursuivaient, le continent continuerait à souffrir. Il n'y a pas vraiment de raison d'être absorbé par la recherche des origines de la pandémie, et surtout si le but est seulement de marquer des points politiques à bon compte, a indiqué l'article. L'article a souligné que ce dont l'Afrique avait besoin pour lutter contre la pandémie était des solutions pratiques, pas une guerre de propagande. Le continent doit s'opposer aux efforts déployés par les États-Unis pour accuser la Chine d'être à l'origine du virus et se concentrer sur le renforcement de la solidarité mondiale pour trouver une solution durable à la pandémie, toujours selon cet article. L'Afrique dispose d'une des plus riches biodiversités de la planète, mais jusque-là, les négociations qui se déroulent dans le cadre de l'accord historique sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, font à peine référence à l'environnement. Donc, il s'agit là d'une occasion manquée de parvenir à un développement durable grâce à l'intégration commerciale en Afrique telle que prévue par l'agenda 2063 pour l'Afrique, a déclaré la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, dans une nouvelle étude. Selon un communiqué de la CNUSED, l'étude porte sur le lien entre le commerce et la biodiversité et les engagements des parties prenantes à l'accord ZLECA. Elle recommande des moyens de transformer l'accord en un catalyseur du commerce durable de la biodiversité et en un moteur essentiel du redressement et du développement de l'Afrique après la pandémie de COVID-19. Et l'initiative pourrait jouer un rôle central dans l'établissement d'une voie de développement vert pour les pays africains et ainsi assurer une reprise respectueuse de l'environnement après la pandémie de COVID-19, a déclaré David Vivas, juriste de la CNUSED, travaillant sur les questions de commerce et d'environnement citées dans le communiqué. BioTrade englobe les activités liées à la collecte, à la production, à la transformation et au commerce de biens et de services issus de la diversité qui respecte des critères de durabilité environnementale, sociale et économique connus sous le nom des critères et principes BioTrade, a expliqué la CNUSED. La Libye a annoncé des plans de réouverture de ses passages frontaliers et de reprise des vols vers la Tunisie, pays voisin. Le premier ministre libyen Hamid Zaibar a donné des instructions au ministre de l'Intérieur et des Transports sur la reprise des activités entre les deux pays, tout en soulignant la nécessité de prendre des mesures de protection contre la pandémie de COVID-19. Selon des sources gouvernementales, plus tôt en juillet, la Libye avait fermé ses passages frontaliers avec la Tunisie sur fond d'augmentation des cas de COVID-19 en raison du variant Delta. Le gouvernement libyen a récemment lancé une campagne de vaccination exceptionnelle qui permet à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, qu'elles soient libyennes ou étrangères, de se rendre dans des centres de vaccination. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque perpétrée par des inconnus armés dans le Sahel burkinabé est passé de 30 à 65 civils tués, a annoncé le ministre de la communication Houseni Tamboura. La gendarmerie nationale du Burkina Faso, qui a dit avoir perdu 15 soldats, a par ailleurs annoncé que 80 terroristes avaient été neutralisés dans la riposte. Les autorités burkinabées avaient annoncé un premier bilan de 58 terroristes neutralisés et de 14 soldats tués. Un deuil national de 72 heures a été par le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore après cette attaque. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques des armées dans plusieurs de ses régions. Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un attentat à la bombe dans la capitale somalienne Mogadiscio, selon la police et des témoins. Un officier de police qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat a dit à l'agence finnoise Xinhua qu'un kamikaze est entré dans un restaurant très fréquenté près du carrefour Juba et s'est fait exploser, faisant plusieurs victimes. Jusqu'à présent, nous savons que 4 personnes, dont en fait l'auteur de cette attaque terroriste, ont été tuées et que des dizaines d'autres ont été blessées, a-t-il indiqué. Le lieu de l'attaque se trouvait de près du siège de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité. Le restaurant est fréquenté par les forces de sécurité. Ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.